Shalom tout le monde. Nous sommes de tout cœur avec nos frères de Toulouse qui connaissent des événements tragiques et nous prions pour la guérison des blessés. La Haggadah de Pessah. La Haggadah, c'est une partie en fait de toute la soirée du Seder. La soirée du Seder est composée de nombreuses mitzvot. Alors, je vous prie de faire la liste des mitzvot. Allez-y. Quelles sont les mitzvot que nous accomplissons le soir du Seder, puisqu'on a déjà passé la dernière fois la série du Seder. Oui. Hein? Manger de la matzah. Oui. Les quatre coupes, ça fait donc encore combien de mitzvot? 5. Donc 4, la mitzvah, la matzah, oui. Hein? Réciter la Haggadah. Manger le maror. Manger la fécomane. Le haroset n'est pas une mitzvah en soi, c'est un accompagnement. Le kiddush, ça fait partie des quatre coupes, oui. Hein? Oui, matzah, on l'a déjà dit. Il y a quatre kazaïtes. Oui. Birkat Amazon, le halel, le selavéman n'est pas une mitzvah en soi. Le korer, vous avez oublié, et le karpas. N'est-ce pas? On a compté ici 12 mitzvot, hein, bien 12 mitzvot. Certaines sont midoraita, certaines sont midrabanan. Maintenant, quel est le dénom. Quoi? C'est une sorte de mitzvah. Merci. Quel est le dénominateur commun de toutes les 12 mitzvot que nous avons comptées? C'est la bouche. Et tout passe par la bouche. La bouche parle ou consomme. La bouche parle en hébreu, ça se dit hapé, sah. C'est-à-dire la bouche récite. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement central dans la bouche le soir du Seder. Par exemple, à Hanouka, ce qui est central, c'est les yeux. Il faut voir les lumières de Hanouka. À Rosh Hashanah, ce qui est central, l'oreille. Il faut entendre le son du chauffard. Hein? Quoi à Pourim? Ce qui est central à Pourim? J'en sais rien. Est-ce que je suis obligé de dire tout ce qui est central à tout moment? Bon. En tout cas, il y a un organe extrêmement central, donc le soir du Seder, c'est la bouche. Ça veut donc dire qu'il y a, le soir de Pessah, une ouverture de la bouche. Ce qui correspond, si vous voulez, à la différence entre l'état du peuple juif avant, quand il est en galoute, par rapport à sa situation quand il est en Géoula. La différence, c'est la signification de la parole. C'est-à-dire, quand le peuple juif est en exil, ce qu'il a à dire n'intéresse personne. À partir du moment où on sort de l'exil, ce qu'on a à dire est important. On nous écoute. On nous écoute et donc il y a une transformation de la parole. On voit cela dans la première sortie d'exil qui est racontée dans la Torah lors de la fuite de Yaakov Avinu de la maison de Lavan et son retour en Eretz Israël. Quand il quitte la maison de Lavan, il est rattrapé à la frontière d'Eretz Israël par Lavan à un lieu appelé le Gilad, les monts du Gilad, dans les Bibles en français, dans le Galaad, n'est-ce pas? Bon, il est donc atteint par Lavan là-bas. Finalement, se contracte une alliance entre Lavan et Yaakov, et c'est là donc que Yaakov prend son indépendance, et le lieu est appelé par Lavan du nom de Yegar Sahaduta, et Yaakov nomme le même endroit Galaad. Ça veut dire quoi, Yegar Sahaduta? Ça veut dire l'amoncellement de témoignages. C'est-à-dire, là-bas, ils les amoncellent des pierres, ils en font un tas, et le tas sert de témoignage. N'est-ce pas? Donc le tas du témoignage, ça se dit en araméen, Yegar Sahaduta. Que veut dire Galaad? Ça veut dire le tas du témoignage, c'est la même chose. La différence, c'est que ça, c'est en araméen, et ça, c'est en hébreu. C'est-à-dire, le passage de l'exil à la Géoula, c'est le passage de l'araméen à l'hébreu. Et quelle est la différence entre l'araméen et l'hébreu? C'est que l'araméen, c'est le subconscient, c'est les arrière-pensées des hébreux. C'est-à-dire, la tentation de l'hébreu, c'est de s'assimiler dans l'araméen, et cette tentation se retrouve à chaque fois que nous partons en exil, et revenir à l'hébreu, à la parole originelle, c'est ça, sortir de l'exil. Et donc, par exemple, on voit très bien que lorsque nos ancêtres sont sortis d'Égypte et que du pain leur est tombé du ciel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Manhu. Ça veut dire quoi ça, Manhu? Qu'est-ce que c'est? En quelle langue? En araméen. N'est-ce pas? Kiloyadeo Mahu, car ils ne savaient pas ce que c'était. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on dit en français Manhu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas? C'est donc qu'ils ont mangé du couscous. Couscous. D'accord? Bon. C'est-à-dire que ils ont réussi donc à s'en sortir, à se sortir de l'emprise de l'araméen, du cosmopolitisme araméen, pour revenir à l'identité d'Israël. C'est ça? C'est ce qu'on appelle l'aman, l'hébreu. Eh bien, de même, il en est pour lorsqu'on sort de l'Égypte. Lors de la soirée du Seder, on commence la Gada par un passage en araméen. Le passage en araméen est intéressant. Il dit « Ha lahma anya » Ceci est le pain de misère. « Di achalu avahatana » Que nos ancêtres ont mangé. « Bera de Mitzrayim » Dans le pays d'Égypte. « Kol dirfin yetev yehul » Tout celui qui a faim, qu'il vienne et qu'il mange. Kol ditzrich, tout celui qui a besoin, yete veivsa, qu'il vienne faire pesach. Hashata hacha. Cette année, nous sommes là. La suite. Comment t'as dit? Les shana abam, c'est de l'hébreu. Les shana abam, c'est de l'hébreu, c'est plus de l'araméen. Il faut être un peu conséquent. Si on commence en araméen, il faut continuer en araméen. Quand on parle de la sortie de la Galoute, eh ben, c'est l'hébreu qui s'éveille.
Mais oui. Si le subconscient c'est l'araméen, la source c'est l'araméen.
Non. Non.
Si le subconscient c'est la source de nos paroles.
Non. Non. Il y a la source de la source.
Ah, et la source du subconscient, ce sera encore l'hébreu.
C'est bien sûr.
Okay. Et vous avez dit il y a 12 000 votes.
Oui.
J'avais noté 15 d'ailleurs.
Pourquoi tu en as noté 15? C'est pas impossible qu'il y en ait 15. C'est une manière de compter. Oui. Bon, donc il y en a. Donc je reviens. Les Shana Abba, c'est de l'hébreu. Les Shana Abba, comment tu as dit? Bara de Israël. Ah, ça, c'est de l'araméen. C'est-à-dire, il y a un moment où on arrive à surmonter l'exil. On parle de les Shana Abba, mais tar, ça retombe dans l'araméen. Version séfarade. Hashata ha avde. Cette année, nous sommes ici esclaves. Et puis après, les Shana Abba, à nouveau en hébreu. Vara de Israël, Vénéchorin. Et puis à partir de ce moment-là, toute la Gada est en araméen. Et non, pardon. Je me suis planté. À partir de ce moment-là, toute la Gada est en hébreu. Elle est en hébreu jusqu'à quel moment? Presque jusqu'à la fin. Après, on arrive à Echad mi Yodea, Echad ani Yodea. C'est de l'hébreu, n'est-ce pas? Oui, mais après vous arrivez à Sarah, Dibraya, ah tiens, Ahad Asar, Korvaya, Shnem Asar, Shiftaya, Shlosha Asar, Midaya. C'est-à-dire que l'araméen commence à nous entacher vers la fin du Seder. Et puis après on tombe dans le Hadgadia, Hadgadia, Dizabin, Araba, Bitrezouze. Tout ça est en araméen, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à la fin du Seder, on retombe dans la galoute puisqu'on a fini le Seder. D'accord? C'est-à-dire c'est de l'araméen au début, de l'araméen à la fin et de l'hébreu au milieu. Jusque-là, vous avez compris? Bon. Autre question. Vous avez remarqué qu'on commence par Halachma'ania. Ceci est un pain de misère. Et puis après, l'enfant, une des questions qu'il pose, pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah? Mais on lui a déjà expliqué puisqu'on a dit Halachma'ania. Il comprend pas l'araméen? Ben non, pas du tout. L'araméen, c'était la langue parlée, justement. Il comprenait. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Al-Rahmania avant? En vérité, le Al-Rahmania ne veut absolument pas expliquer pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah. Absolument. Mais non, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Et ça, c'est le père qui le dit après. Après la question du fils, il explique pourquoi est-ce qu'on mange du pain, etc. Du pain. Non? Pas du tout. C'est pour répondre à une autre question. Non? À une question antérieure. La question qui vient avant, c'est pourquoi est-ce qu'on a coupé la matzah en deux? Vous rappelez qu'on coupe la matzah? Ben oui, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière au cours? Tu es venu ou pas? Tu te rappelles qu'on avait dit qu'il fallait couper la matzah en deux? Et que certains ont même demandé qu'est-ce que c'est que cette phrase en arabe qui est dans certaines agadotes, n'est-ce pas? D'accord, bon. Ça se fait avant le Maguide, n'est-ce pas? Bon, donc on a coupé la matzah. L'enfant se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il a coupé la matzah? Quand on mange du pain, on mange un pain entier dans les jours de fête. Pourquoi faire le motzi sur un pain coupé? On dit parce que c'est un pain de misère. D'accord? Et donc on rappelle ça, mais ça n'a rien à voir. Mais pourquoi est-ce qu'on mange ce pain de misère? Ça s'est pas dit. À part ça, il y a un autre problème. Pourquoi est-ce que dans le Al-Rahmania, on dit quelque chose qui est... Vous comprenez le texte? Vous avez le texte en tête ou pas? Moi, j'ai pas d'agada, mais ça va, moi, je connais le texte. Enfin, vous connaissez-vous le texte? Bon, c'est très bien. Non, moi, ça va. C'est pour les élèves. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à ce que ce soit un cours sur l'agada, n'est-ce pas? On vous a dit que ce serait un cours sur l'agada? Non. Ah, c'est terrible, parce qu'on m'a cassé les pieds déjà depuis hier, et encore ce matin, pour me dire, il faut que tu fasses le cours sur la Haggadah. Alors moi, comme une bonne poire, j'accepte de faire le cours sur la Haggadah, mais ils ont... Comment tu organises, franchement? Ils n'ont pas le texte. C'est dramatique. Bon, que faire? Donc, non, c'est-à-dire que le cours est de moins bonne qualité, tout simplement. À partir du moment où quelqu'un n'a pas le livre, il ne comprend pas. Bon, mais c'est pas grave, laisse tomber. Tu n'as quand même pas manqué le cours. Bon, il y a ici un problème, c'est que dans le Al-Rahmania, on dit quelque chose de faux. On dit « Kol dirfin yeteh veyichul » tout celui qui a faim, qu'il vienne manger. « Kol ditzrir » tout celui qui a besoin, yeteh veyifsar » qu'il vienne faire le Pessah. C'est quoi le Pessah? Le sacrifice. Mais le sacrifice ne peut être mangé que pour les personnes inscrites à l'avance, avant l'abattage de la bête. Or, l'abattage du mouton, il se fait à quelle heure? Pas du tout. Il se fait pendant l'après-midi, avant la fête. Donc, à partir du moment où la bête est déjà abattue, elle est sur la table, le mouton grillé est sur la table, on ne peut quand même pas dire aux gens que celui qui veut, celui qui a faim, vient de faire le Pessah. Il n'a pas le droit, puisqu'il n'est pas inscrit à l'avance. Vous avez compris la question? Donc, ce qu'on dit dans le Al-Rahmania est absurde.
Alors, ça veut dire qu'on dit avant de faire le
Korban. Avant de faire le Korban. Il n'y a pas la matzah. La matzah n'est pas encore prête. La matzah se faisait au dernier moment. Non, pas du tout. En fait, ça veut dire que l'araméen est employé, entre autres, pour faire des lamentations. La Guémara dit que la langue qui convient le mieux à la lamentation, c'est l'araméen. Donc en fait, le Al-Rahmania est une lamentation. Pourquoi est-ce qu'on se lamente? Parce qu'on dit, voilà, ben, si le Beth Amikdash était construit, alors on ferait le Korban Pessah. Mais maintenant que nous n'avons pas le Korban Pessah, tout celui qui a faim peut venir. Et c'est pour ça qu'on dit, les Shana Abba, mais l'année prochaine, nous ferons le Korban Pessah. Et alors, on n'invitera pas n'importe qui. On invitera seulement ceux qui sont inscrits à l'avance. D'accord? Oui, quoi encore? L'araméen, c'est bien pour la lamentation. Les slichot, il y en a en hébreu, il y en a en araméen. Hein. N'est-ce pas? Je crois, n'est-ce pas? Mahé ou masé, mémit ou merhé. Oui? C'est un reste. Un reste. Ben, c'est un reste de ce qui se faisait pendant la galoute. Alors, on a encore un peu de ça. Bon. Alors maintenant, vous avez les quatre questions. Bon. Bon, vous avez les quatre questions du fils. Le fils voit qu'il y a sur la table des matzot, il voit qu'il y a du maror, il voit que tout le monde est accoudé, il voit qu'il y a de quoi tremper deux fois. Alors, il pose des questions de ce genre, et il demande, mais enfin, qu'est-ce que c'est ces histoires? Et alors, le père lui répond. Le père lui répond par la belle phrase, « Avadim haïnou les pharaons de Mitzray, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Vayotzi Hashem Elohim Misham, Dieu nous a fait sortir de là-bas. » Ça, c'est en fait, à partir du moment où le père a dit cette phrase-là, il a répondu à la question du fils, il a accompli la mitzvah du Magid. C'est ça l'essentiel. N'est-ce pas? Et vous vous rappelez qu'on avait vu que beaucoup plus loin dans la Gada, il y a une autre réponse qui est donnée au fils, c'est Mitehila, Ovde Avodazara et Avotenu, Vershav Kirvenu Amakom Lavodato. Au début, nous étions des idolâtres, et maintenant Dieu nous a rapprochés de son service. On a vu que ces deux textes ont été mis ensemble dans la même Agada dans l'époque postérieure au Talmud, mais qu'à l'époque du Talmud, il y avait deux opinions. Il y avait des familles dans lesquelles on répondait à la question de l'enfant par Avadim Haïnou, et il y a d'autres familles dans lesquelles on répondait aux questions de l'enfant en lui disant Mitechila, Ovde Avodazara, Uavodenu. Et ici donc, ici, une controverse très forte, qui est de savoir est-ce que la sortie d'Égypte est un événement national, de libération nationale, ou est-ce que c'est un événement religieux qui nous a fait sortir de l'idolâtrie? Important cette marloquette. Mais le peuple juif n'aime pas la marloquette, donc il a mis les deux textes ensemble. Donc à la fois Avadim, Haïnou et Mitechila. Mais celui qui vient en premier, c'est le Avadim Haïnou. N'est-ce pas? Maintenant vous allez voir tout de suite que dans le texte de Avadim Haïnou, il y a une critique sous-jacente de l'opinion de celui qui dit Mitechila Ovde Avodazara. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit dans le Avadim Haïnou? On dit Va'afilou. Kulanu hachamim, même si nous sommes tous des sages, kulanu nevonim, tous doués de discernement, kulanu, certains rajoutent zekenim, nous sommes tous des vieillards, et puis on continue, kulanu yodim et adora, même si nous connaissons tous la Torah, mitzvah aleinu, nous avons le devoir de respecter le Shabbat, ou de manger kasher. Non, c'est pas écrit comme ça? Bon, c'est évident que ça ne peut pas être écrit comme ça. Est-ce qu'il y aurait lieu de penser que quelqu'un, parce qu'il connaît toute la Torah, serait dispensé d'accomplir une mitzvah? Non. Alors pourquoi est-ce que dans la Gada de Pessah, on dit « Même si nous sommes tous des chachamim, nous devons raconter la sortie d'Égypte. » C'est une banalité. Si... Non, je sais, bien sûr, mais si même les rabbins doivent accomplir les mitzvot, n'est-ce pas? Donc s'il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, alors, c'est une évidence, ça tombe sous le sens, c'est une banalité, que nous devons réciter la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire, même les chachamis, même les rabbins, ils doivent raconter la sortie d'Égypte? Absurde, n'est-ce pas? Non, j'avais compris la question. Quand je pose une question d'abord, ce qui est très important pour moi, c'est qu'on comprenne la question. Pas qu'on se précipite de donner une réponse. Est-ce que la question est claire? D'accord. Maintenant, la réponse, c'est moi qui vais la donner. Absolument, oui. Mais vous avez compris la question? Très bien, la question. Bon. La réponse, c'est qu'il y aurait lieu de penser qu'effectivement les rabbins sont dispensés de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que raconter la sortie d'Égypte, c'est parce qu'on se réjouit d'être sorti d'Égypte. Mais qui c'est qui se réjouit d'être sorti d'Égypte? L'ignorant, il est content d'être sorti d'Égypte. Parce que les ignorants, ce sont des gens simples qui n'aiment pas la servitude. Je n'aime pas être dominé par un goy. Donc je suis heureux d'être sorti d'Égypte. Et donc, la Torah m'a dit de raconter la sortie d'Égypte. Mais les Chachamim, peut-être que pour eux, la sortie d'Égypte n'est pas un bienfait. Parce qu'ils se disent que ce serait peut-être mieux de pouvoir continuer à étudier la Torah en Égypte pour que la responsabilité des choses de l'État soit prise par le Pharaon. Parce que maintenant que je suis sorti d'Égypte, j'ai sur moi un tas de charges. Je dois m'occuper de la sécurité nationale. Je dois m'occuper de l'éducation, de l'agriculture, de l'économie, de l'intégration des olim, de financer les universités et les yeshivot. Tout ça, c'est un travail dingue. Tandis qu'il serait tellement plus simple que le pharaon nous donne l'autonomie religieuse, le droit d'étudier la Torah, et comme ça, c'est le pharaon qui continue à s'occuper des choses de l'État. Donc la sortie d'Égypte pour les chachamim, En fait, c'est une charge. Ils se disent, il valait mieux pas. Oui, on peut. C'est ce que pense en fait le Chacham. Il pourrait éventuellement se dire qu'il serait mieux d'être resté esclave. Comme on voit dans les bénédictions de Yaakov pour Issachar, qui dit que Issachar préfère la servitude. Parce que Issachar, il étudie la Torah. Donc il s'en fiche pas mal de l'indépendance nationale. Ce qui est important, c'est l'étude. Alors si Pharaon, il nous laisse étudier, ça va. Oui. Oui, alors le problème qu'il y avait en Égypte, c'est qu'on n'avait pas la possibilité d'étudier. Mais alors, si on avait convaincu Pharaon, hein, gentiment comme ça, écoute, laisse-nous étudier la Torah. On reste en Égypte, pas de problème, mais laisse-nous étudier la Torah. Alors les Chachamim auraient été contents. Peut-être qu'il n'aurait pas accepté, mais en tout cas, le fait qu'il ait accepté de nous faire sortir d'Égypte, ça nous a donné un travail dingue. C'est un peu malgré lui, je veux bien, mais enfin, d'un autre côté, on peut se dire, mais... c'est peut-être pas tellement bien, quoi. C'est-à-dire, ça aurait été mieux s'il avait accepté. Par exemple, si Moshe avait dit à Pharaon, écoute, voilà, je te fais les 10 plaies pour que tu acceptes que les Hébreux puissent étudier la Torah. Hein? Pour les Chachamim, ça aurait été mieux. Et pourtant, la Halakha ne fait pas cette différence. Qu'est-ce que dit la Halakha? Même les Chachamim doivent raconter la sortie d'Égypte. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de Torah sans indépendance. Et c'est ça qu'en fait le Maguide, dans Avadim Ayinu, veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une critique sourde de celui qui dit que l'événement de la sortie d'Égypte est uniquement un événement religieux. Et c'est ce qui lui dit, non, mais pas du tout, parce que si c'était seulement un événement religieux, on aurait pu rester en Égypte. Et pourtant, même les Chachamim doivent raconter la sortie d'Égypte, ce qui prouve que c'est un événement national d'abord. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore?
C'est-à-dire quoi, le fait de s'occuper de son pays, de tout ça, politique et tout, c'est-à-dire c'est notre indépendance.
À partir du moment où tu es indépendant, c'est toi qui dois t'en occuper. Si tu es indépendant, c'est toi qui dois t'occuper de l'armée. C'est toi qui dois t'occuper des universités. D'accord? Il n'y a pas de Torah sans indépendance nationale. La Torah est donnée à une nation. Et donc une nation, c'est une entité politique indépendante, et c'est à elle que la Torah est donnée. Oui, la Torah n'a été donnée qu'après la sortie d'Égypte. C'est très significatif. Pourquoi est-ce que la Torah a été donnée seulement après la sortie d'Égypte? Hein? Il fallait d'abord être libre. Ils auraient appris des tas de choses. Par exemple, la cacheroute, ils auraient appris, je ne sais pas, comment mettre les teffes, comment respecter le Shabbat, tout ça. Hein? D'accord? Il n'y a pas de Torah sans indépendance. Je veux dire, il y a un truc intéressant dans la paracha de Béalotra, dans le livre de Bamidbar. Il est question là-bas, lors de la deuxième année de la sortie d'Égypte, Moshe dit aux enfants d'Israël d'accomplir le Korban Pessah. Vous vous rappelez de ça? Et il y en a qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs. Ils avaient touché un mort. N'est-ce pas? Comme ils avaient touché un mort, ils ne pouvaient pas faire de Korban Pessah. Alors, très angoissés, ils vont voir Moshe et Aaron, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Comment, on ne va pas faire le Pessah avec tout le monde? Moshe dit, pas de problème, je demande à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, voilà, il y a le Pessah Sheni. Vous savez ce que c'est Pessah Sheni? C'est le deuxième Pessah, ça tombe quand? Un mois après, le 15 Iyar. N'est-ce pas? Le 14 Iyar plus précisément. Voilà, donc ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessah parce qu'ils étaient impurs, ils font le 14 Iyar, le deuxième Pessah, et après ça va. Cette réponse est absolument incroyable. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui a été obligé de manger à Kippour. Un problème, il devait manger à Kippour. Bon, il était malade. Il n'avait pas le choix, il était obligé de manger à Kippour. Qu'est-ce qui se passe? Il ne rattrape pas du tout. L'année prochaine, il fait Kippour. Il n'y a pas de deuxième Kippour pour ceux qui ont été obligés de manger. Ou bien si quelqu'un, par exemple, n'a pas pu s'installer dans la soukha à Soukhot. Il n'y a pas un deuxième Soukhot de rattrapage. Ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un Pessah de rattrapage? Moi, à la place de Moshe, je leur aurais répondu, ne vous en faites pas, vous ne pouvez pas faire le Pessah, mais ce n'est pas grave, l'année prochaine, vous ferez. N'est-ce pas? Il n'a pas répondu comme ça. Pourquoi? Pourquoi cette angoisse des Béné Israël impurs qui veulent absolument faire le Pessah le plus vite possible? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après Pessah, il y a une autre fête qui s'appelle comment? Shavuot. C'est la fête qui commémore quoi? Le don de la Torah. Tandis que Pessah, ça commémore quoi? La sortie d'Égypte. La liberté. Imaginez ce que ça voudrait dire pour ces hommes-là, recevoir la Torah sans être passé par la liberté. Ça serait donc de la Torah sans indépendance. Ça serait donc une forme de christianisme. Ben oui, la Torah sans passer par l'être national, c'est exactement ce que dit le christianisme. Le christianisme dit, nous voulons la Torah, nous ne voulons pas Israël. Il y a un texte dans le traité de Chagiga, page 5b, d'Afé Amoudbet. Vous savez ce que dit la Gemara dans Chagiga d'Afé Amoudbet? Ah, vous n'avez pas encore fini tout le Talmud? Dans Chagiga, il est dit, Kevan Shegalou Israël Mimekomam, depuis qu'Israël a quitté son lieu, c'est quoi le lieu? Eretz Israël. En lecha bitul Torah gadol mizé. Il n'y a pas de plus grande abolition de la Torah que cela. Ainsi qu'il est dit, on amène un verset. Malka vesareha bagoyim, puisque son roi et ses princes sont parmi les nations, en Torah, il n'y a plus de Torah. D'accord? Donc c'est ça en fait que dit le Maguide quand dit Avadim, que même nous, même ceux qui sont érudits, etc., doivent raconter la sortie d'Égypte. Je reprends le texte. Avadim aïnou les pharaons de Mitzraï. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Vayotienu Hashem Eloheinu Misham. Et l'Éternel notre Dieu nous a fait sortir de là-bas. Beyad Hazaka, avec une main forte. Uvizro Anetouya, et un bras étendu. Veilou lootsi Akadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzraï. Et si le Saint béni soit-il n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte. Haréanu, voilà que nous. Ouvanez-nous et nos enfants. Ouvenez banez-nous et les enfants de nos enfants. Meshua Abadi, Maïnou les pharaons de Mitzraï, nous serions encore asservis à Pharaon en Égypte. Ah bon? Vous y croyez à cette phrase? Cette phrase dit n'importe quoi. Vous vous rendez compte ce que dit ici la Gada, c'est quelque chose d'absolument absurde. Ça veut dire que si on n'était pas sorti d'Égypte il y a 3300 ans, on serait encore en train de se servir de la technologie attardée et primitive, et nous serions encore en train de construire des pyramides. On aurait donc couvert l'Afrique entière depuis Alexandre jusqu'à Cape Town de pyramides. C'est absolument idiot. C'est vrai. Moi, je peux imaginer des tas de scénarios possibles. Par exemple, que nous aurions été éliminés en Égypte, ou bien qu'on se serait assimilés, ou bien qu'on aurait pris le pouvoir, ou bien qu'un conquérant extérieur serait venu, ou bien que les Égyptiens seraient devenus démocrates et libéraux, ou bien que la technologie aurait évolué, par exemple qu'on aurait inventé des pyramides gonflables. Je sais pas, des tas de trucs. Ou bien que la mode des pyramides serait passée, donc on n'a plus besoin d'esclaves. Des cubes, par exemple. Des quoi, des ronds, ou bien même des champignons. Des champignons, comme ça, tiens, des champignons. Ouais. Hein? Des schtroumpfs. Comme les schtroumpfs. Je n'aime pas les pyramides. Oui. Quoi? C'est dans la... Oui, dans la Haggadah. Et si on n'était pas sorti d'Égypte, on serait encore en train de faire ça. Je pense qu'au moins Pharaon serait mort. On dit, nous serions encore asservis au Pharaon en Égypte. Bon, ça voudrait dire peut-être que la dynastie pharaonique, d'accord. Mais qui t'a dit que le régime pharaonique aurait continué? Conclusion du Rav Kook. Ah, s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, le monde serait resté figé. Il n'aurait pas évolué. C'est-à-dire l'idée même de transformation du monde, le fait qu'on peut évoluer et qu'il y a vers quoi aller, l'idée de progrès a son origine dans le fait qu'Israël est sorti d'Égypte. Si, on peut le prouver. Eh bien, c'est très simple. L'idée de progrès, de transformation du monde, n'existe dans l'histoire que dans les civilisations qui ont entendu parler de la sortie d'Égypte. Oui, et disons que chez le Pharaon, c'était une société totalement incapable de transformation. Je vais donner un exemple de ça. Il y a un Pharaon qui rêve, dans le livre de Bereshit. Il rêve et puis il voit des vaches grasses. Après, il voit des vaches maigres. Il se dit, mais enfin, bon flanc, ça veut dire quoi, ça? Un enfant peut comprendre, si au début c'est gras, après c'est maigre, c'est qu'au début, il y a de quoi manger, et après, il n'y a plus de quoi manger, n'est-ce pas? Et puis le pharaon, il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il amène tout le monde, tous les sages, tous les magiciens d'Égypte. Vous savez ce que ça veut dire, gras et après maigre? Oh ben, sire, nous ne savons pas ce que ça peut vouloir dire, gras et puis après maigre. Ah oui, mais j'ai un copain de cellule. Lui, il sait. Alors, oui, tu peux l'amener? Voilà, on le fait sortir de la cellule. Alors le pharaon lui dit, on dit que tu sais ce que ça veut dire gras et maigre. Oh ben, ça veut dire qu'au début, il y aura de quoi manger, et puis après, il n'y aura pas. Le pharaon en est paf. Il dit, mais c'est extraordinaire. Après que Dieu t'ait annoncé des choses pareilles, il n'y a pas de plus sage que toi. Est-ce que tu veux être Premier ministre? Vous comprenez l'absurdité de la chose? C'est infantile. En fait, ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire que pour qu'il y ait la famine en Égypte, il faut que le Nil cesse de fonctionner. Or, le Nil ne peut pas cesser de fonctionner parce que c'est un dieu. Un dieu, c'est quelque chose qui ne change pas. Ce sont les forces de la nature qui sont divinisées. Et donc, l'idée qu'il y ait un changement en Égypte, un changement économique, est impensable. C'est-à-dire, ça ne peut pas, c'est ce qu'on appelle une idée hétérodoxe. Donc, ça ne traverse pas l'esprit des sages de l'Égypte. Mais un Hébreu vient et dit, ça peut se faire. Vous comprenez? Il faut bien comprendre ce que c'est que le monde de l'Égypte avant la sortie d'Égypte. Par exemple, il y avait un goy qui s'appelait Platon. Vous avez entendu parler de lui? Un grec d'Athènes. Il a fait un petit tour en Égypte. Et quand il a vu la société égyptienne, c'est ce que disent en tout cas les chercheurs, c'est là qu'il a eu l'idée qu'il pouvait avoir un régime politique permanent, que rien ne change. Parce qu'il a vu une civilisation qui n'avait pas changé depuis très très longtemps. Oui? Et donc, oui? Ah oui, ça a changé, grâce à qui? Aux juifs, n'est-ce pas? Oui? Hein? Oui, bien sûr. Là, en Grèce, il y avait la notion de progrès. Attention, de quel progrès? En Grèce, il y avait la notion d'évolution cyclique du monde. C'est-à-dire, dans l'imagination grecque, dans l'imaginal grec, il y a un cycle de révolution dans le monde et ça revient au même endroit. Ça s'appelle l'éternel recommencement. L'idée qu'on peut sortir de ce cycle infernal, c'est une idée qui a été transmise par les juifs. Et c'est ce qui a engendré dans la civilisation hellénistique le christianisme. C'est comme ça que c'est compris. Mais on peut voir d'ailleurs que dans les civilisations étrangères, tu as posé la question, n'est-ce pas, je crois. Bon, c'est plus important ton téléphone, je sais bien. Bon, on a pu voir dans les civilisations étrangères au souvenir de la sortie d'Égypte, que les civilisations sont restées figées. Je parle par exemple de la Chine, des Aztèques, et si j'avais le temps, je rentrerais même dans le détail. Si je n'ai pas le temps, je ne le ferai pas. Oui? Je vais peut-être vous donner un petit exemple, quand même, pour les Aztèques. Il y avait chez les Aztèques, dans la mythologie des Aztèques, il y avait ce qu'on appelle le Quetzalcoatl. Vous connaissez?
Ouais.
Oui. Qu'est-ce que tu connais du Quetzalcoatl?
Le serpent.
Le serpent à quoi? À plume. Serpent à plume. Et c'est quoi? Il sert à quoi, ce serpent à plume?
Il est méchant.
Il est méchant? Non, pas du tout. Contre. Il est gentil, oui, c'est vrai, mais... C'est une sorte de Mashiach. Effectivement. Le Quetzalcoatl, c'est celui qui viendra un jour du côté de la mer sous forme d'un homme blanc avec une barbe et à cheval. Non. Ça veut dire que pour eux, il y a une idée de Géoula, d'ailleurs en hébreu, Nahash, le serpent, c'est la même guématria que le mot Mashiach. Ils ont cette espérance, mais ils savent que ça ne peut pas venir d'eux. Ils ont, eux, développé une civilisation totalement figée qui était la réplique exacte de la Babylonie antique. Ils avaient des pyramides à degrés, ils avaient des sacrifices humains, ils avaient des grands prêtres et des rois, etc. Mais tout était resté à la manière de l'Antiquité. Mais ils avaient cette espérance d'être un jour sauvés. Et quand le conquérant espagnol Cortés est arrivé, et qu'il était blanc, et qu'il avait une barbe, qu'il montait à cheval, et qu'il venait du côté de la mer, eh bien, les Mexicains se sont prosternés devant lui, parce qu'ils étaient persuadés que c'était le Quetzalcoatl qui était venu. Il a kiffé, d'ailleurs, il les a sauvés des souffrances de ce monde. Il les a exterminés en très grande quantité. Oui, je sais pas comment il faut, mais en tout cas, c'était très méchant, en tout cas. Mais ils avaient donc cette idée que c'est celui qui porte le souvenir d'Israël qui peut les sauver. Parce qu'effectivement, il est venu au nom du christianisme. Il était lui-même d'ailleurs d'origine juive, le Cortés en question. Donc c'est un exemple comme d'autres, enfin je pourrais en amener d'autres, mais je n'ai pas le temps.
Mais oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en Égypte, ils évoluaient quand même.
Non.
Mais si, ils avaient une des sciences.
Oui, ils étaient arrivés à ce qu'on appelle à une saturation. C'est-à-dire, c'est comme une fonction exponentielle. Ça monte, et puis après, ça ne dépasse pas une certaine limite. N'est-ce pas? C'est asymptotique, mais ça n'évolue plus. Oui. Non, pas du tout. Le Mashiach, c'est ce qui permet de commencer l'histoire. Tant qu'on n'est pas arrivé au messianisme, on est encore dans la préhistoire. Un monde dans lequel il y a des guerres, il y a de la famine, il y a de la violence, etc. C'est pas normal. S'il n'y a plus de guerre, c'est là que ça commence à évoluer. Parce qu'on dit Tzadikim en la menucha, lo ba olam hazeh ve lo ba olam haba. Les justes n'ont pas de repos, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Parce que s'ils étaient dans le repos, ça serait l'ennui éternel. C'est ça? Oui? Non, elles ont. Non, non, pas tout le monde a vu la sortie d'Égypte. Quoi? Qui en a entendu parler? Ben, on le sait. Le monde chrétien, le monde musulman, ils ont entendu parler. Chez les Aztèques et les Chinois, on en a pas. Chez les Aborigènes non plus, on n'a pas entendu parler. Non, toutes les mers du monde se sont ouvertes. Pas tout la même chose. D'accord? Comment est-ce que l'Atlantique s'est ouvert? Eh bien, au 34e parallèle. C'est ça? Comment? Oui, alors tu vois, on voit encore d'ailleurs une échancrure là-bas. On voit que c'est là-bas que ça. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Bon, alors, oui, je. Non, j'ai pas le temps. Maintenant, je voudrais continuer. Beyad Hazaka ou Vizroa Netuya. Dieu nous a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est quoi une main forte et c'est quoi un bras étendu? Une main forte, c'était les 10 plaies d'Égypte. On voit dans les textes, là-bas, on parle de la main de Dieu. Yad Hashem. Et quand on dit un bras étendu, en hébreu biblique, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini de sortir. C'est-à-dire qu'il est resté encore dans le compte de la sortie d'Égypte, il y a encore des forces actives qui continuent la Géoula. Je vais vous dire quelque chose d'un peu pessimiste. Vous voulez? Oui. On dit, si nous n'étions pas sortis d'Égypte, alors nous serions encore esclaves de Pharaon, nous serions encore asservis à Pharaon en Égypte. Et maintenant que nous sommes sortis d'Égypte, eh bien, nous sommes encore asservis à Pharaon, mais plus en Égypte. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini totalement l'asservissement aux nations. Oui, exactement. Ça viendra un temps, on n'en parlera plus. Mais tant que ce n'est pas fini, on en parle encore. Voilà, exactement. Bon, après, vous avez le texte de la Haggadah. Oui. Il y a certainement une différence. Qui est? Moi non plus. Vechol hamarbe les saper bitiat mitzraim, et tout celui qui abonde de récits sur la sortie d'Égypte, hareze meshubar, celui-ci est louable. Ah. Ah bon? Comment est-ce que je peux abonder en récits sur un événement du passé? Comment est-ce que je sais les événements du passé? Ben, je les ai reçus par tradition, n'est-ce pas? Bon, mais à partir du moment où j'ai raconté tout ce que je sais, je ne peux pas en rajouter. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous ai raconté 284 histoires de la sortie d'Égypte. C'est ça qui m'est arrivé par tradition. Comment est-ce que je peux en faire plus? Je vais les inventer, les histoires? Ce serait un mensonge. Et alors? Ah, c'est-à-dire celui qui abonde en récit, c'est celui qui se préoccupe de sortir de son Égypte à lui. C'est pour ça, c'est quoi l'Égypte à lui? La domination des Goïms à son temps. C'est comme par exemple, vous avez le récit qui vient juste après, avec une illustration de ça. Maase, Verabi Eliezer, Verabi Yoshua, Verabi Lazar, Ben Azaria, Verabi Akiva, Verabi Tarfon. Shaïm Soubi du Bnei Brak. Donc on nous parle du récit comme ça de la soirée de Bnei Brak avec tous les Tanaïm qui s'occupaient, comme vous le savez, par le cours que vous avez déjà eu là-dessus, de sortir de leur Égypte à eux, c'est-à-dire la domination romaine. C'est-à-dire abonder en récit de la sortie d'Égypte, ça veut dire se préoccuper de sortir soi-même de la domination des goïms. Ça va jusque-là, monsieur ? Mais non, il y a un petit problème. Est-ce qu'on a le droit de raconter la sortie d'Égypte ? On devrait certainement l'interdire. C'est une question que pose le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague se dit, mais enfin, la Torah dit, « Miyemalel givurot Hashem », qui c'est qui peut raconter la puissance de Dieu ?« Yashmiya kolteulato »« Kolteulato », seulement celui qui peut réciter toute sa louange. Or, comme personne ne peut raconter toute la louange de Dieu, donc on n'a pas le droit de raconter la puissance de Dieu. Donc on ne devrait rien dire. Donc qui est-ce qui nous autorise quand même à réciter la Gada de Pessah ? Réponse du Maharal de Prague. L'interdiction de réciter la louange de Dieu, c'est quand on veut donner une définition philosophique de l'éternel. Alors ça, c'est impossible. Mais si c'est un mouvement de gratitude, donc c'est pour des raisons morales. Alors pour des raisons morales, on a le droit. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la primauté du moral sur le métaphysique. C'est important, on comprend pas ça. C'est-à-dire que la moralité est plus importante. Des choses qui sont impossibles philosophiquement parlant sont possibles moralement parlant. Il y avait un goy qui s'appelait Emmanuel Kant. T'as entendu parler de lui ? Oui. Entre autres. Hein ? Critique de la raison pure. D'accord ? Et quand on lui disait, mais est-ce que tu peux raisonner ? Il dit, yes, we can't. Et donc, Kant se pose la question de savoir, est-ce que on peut prouver philosophiquement que le monde est créé ou que le monde est incréé. Ça s'appelle une antinomie de la raison pure. Et puis il arrive à la conclusion que ce problème n'est pas résolvable. La philosophie est impuissante à arriver à une conclusion, à savoir si le monde est créé ou incréé. C'est ce que dit Kant. Alors, quand Dieu a voulu créer le monde, bien embêté, il dit, mais enfin, est-ce que c'est possible ou c'est pas possible ? Parce que dans la critique de la raison pure, il y a écrit que je peux pas. En tout cas, que c'est un doute. D'accord ? Vous comprenez, il fallait que Dieu réponde à la critique. Alors il s'est dit, bon, mais moi je veux créer le monde pour des raisons non pas philosophiques, mais je veux créer le monde pour des raisons morales. Alors Dieu s'est dit, bon, dans ce cas-là, je vais le créer, et après les philosophes écriront des doctorats. Pourquoi ? Akadosh Baruch Hu, voyant que dans la critique de la raison pure, il est dit que la création du monde est douteuse. Il ne sait pas si le monde peut être créé ou ne pas être créé. Il s'est dit, oui, mais moi je veux créer le monde pour des raisons morales, pas pour des raisons philosophiques. Alors Akadosh Baruch Hu s'est dit, je vais créer le monde pour des raisons morales, et après les philosophes écriront des doctorats sur la question. D'accord ? Oui, et c'est la même chose pour raconter la louange de Dieu le soir du Seder, c'est exactement ça. On vient raconter la louange de la Kadosh Baruch Hu, alors qu'il y a un problème philosophique à le faire. Mais ça, on s'en fiche pas mal, parce qu'on a des raisons morales. Oui, vas-y. Parce que la création du monde est un acte de générosité, de chesed, c'est-à-dire donner l'être à un autre. C'est ça qu'on appelle la morale. Donc, je fais un petit saut au-dessus du texte de Rabbi de la soirée de Bnei Brak, c'est le deuxième paragraphe. Mais ça, je le saute parce qu'il paraît que vous avez eu un cours là-dessus. Et nous passons au troisième texte, sur lequel aussi vous avez eu un cours sur Rabbi Lazar ben Azaria, Arianik et Venchim Mishana. Amar Rabbi Lazar ben Azaria. Rabbi Lazar ben Azaria disait, Arianik et Venchim Mishana, qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous avez fait ça aussi ?
Non.
Sur les 70 ans ? Si vous l'avez fait, on continue alors dans ce cas-là. Donc en tout cas, vous avez donc le premier passage avec Dimaïnou qui parle de la sortie d'Égypte dans le passé. Le deuxième texte des Chachamim qui était à Bnei Brak, c'est la sortie d'Égypte dans le présent. Et le troisième texte, c'est la sortie d'Égypte dans le futur. Lorsque la sortie d'Égypte devient insignifiante Et c'est ça dont on parle le soir du Seder. C'est-à-dire, on parle le soir du Seder de l'abolition du Seder un jour. Vous avez compris? C'est intéressant. C'est-à-dire que le souvenir du passé n'a de sens que dans la mesure où il prépare l'avenir. C'est pas de la nostalgie. Parce que même la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Bon. Après, on passe aux questions des quatre fils. Baruch Hamakom, Baruch Hu. Waouh, génial! Mais oui, mais toi, c'est le premier à avoir capté. Les autres, ils n'ont pas encore compris. Ouais. Bon. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Très bien. Baruch Hamakom, Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah L'Amou Israël, Baruch Hu. Béni soit le lieu, béni soit-il. Béni soit celui qui a donné la Torah à son peuple Israël, béni soit-il. C'est quoi cette phrase? Cette phrase à l'origine, c'était pas ça. Dans les textes anciens de l'Agada, il y avait ici la bénédiction qu'on fait quand on étudie la Torah, Birkat HaTorah. Parce qu'on commençait l'étude. Mais comment ça on commence l'étude? On a déjà fait avant. On a commencé par Avadim Hayinu. Oui, mais c'est deux Agadas différentes. C'était l'ouverture de la deuxième Agada. D'accord? Maintenant, ça a été transformé, on dit, Baruch Hamakom, Baruch Hu. Béni soit le lieu, béni soit-il. Qui c'est le lieu? La Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Hamakom, le lieu. Après, on dit, Baruch Shenatan Torah. Béni soit celui qui a donné la Torah, béni soit-il. Quelle est la différence entre la Kadosh Baruch Hu en tant que lieu et en tant que celui qui donne la Torah? C'est le passage de l'impersonnel au personnel. Dieu, c'est le lieu du monde. C'est une notion impersonnelle. C'est ça qui donne l'existence à tout. Mais à partir du moment où il donne sa Torah, il manifeste une volonté, il a une parole. Donc on passe de l'impersonnel au personnel. C'est ça? Bon. Et on nous dit, béni soit le Makom, béni soit-il, béni soit celui qui a donné la Torah à son peuple Israël, Keneged Arba Banim Dibra Torah, et dans cette Torah il y a des réponses aux interrogations des quatre fils. Ah, ça pose un problème. Parce que si la Torah n'a donné des réponses qu'à quatre fils, ça veut dire que la Torah ne donne pas de réponse au cinquième fils. La parole est apparue. Voilà, il y a mincha à une heure parce que après à deux heures viendra le Rav Shmuel Eliyahu répondre aux questions des élèves concernant la fête de Pessah. Voilà. Donc c'est comme ça. Bon. Oui. Bon, alors je reviens donc à ce que je disais. Il y a quatre fils, hein, et le cinquième qui ne vient pas. Et ça pose un problème. Terrible, et une angoisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Le cinquième fils n'est pas venu. Et il fait quoi? Il s'assigne. Et alors, mais c'est embêtant. Comment est-ce que ton monothéisme peut admettre qu'il y a un fils qui est exclu? Un fils qui est exclu. Il s'est exclu, d'accord, et alors? C'est de sa faute, et alors? Ou c'était pas de sa faute? Non, il faut que quelqu'un s'en occupe. Vous savez qui c'est qui s'en occupe? Hamakom. Baruch Hamakom, béni soit le lieu. C'est quoi Makom? Akadosh Baruch Hu est appelé Makom parce qu'il donne sa place à tout le monde. Donc il s'occupe du cinquième. À partir du moment où nous savons qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe du cinquième, alors on est rassuré, on peut passer à la Torah qui, elle, donne des réponses aux quatre fils. Vous avez compris? Ben parce que la Torah, parce que la Gada dit Kinegedar Ba'an. Or, à chaque fois que dans le texte de la Mishnah, on nous dit un chiffre, la Gemara dit que c'est pour exclure quelqu'un. Il pourrait en avoir d'autres. En tout cas, il y a au moins cinquième. D'accord? Tous sont dans la même catégorie, ils ne sont pas venus. Et donc, il faut être rassuré que le cinquième reviendra un jour. Vous avez remarqué qu'il y a quatre coupes de vin? Et une cinquième, pour qui? C'est Léon Navi. Qu'est-ce qu'il fait, Léon Navi? Il ramène le cinquième. Veshiv de Vavot Albanim. Il ramène le cœur des pères sur les fils et les fils sur les pères. C'est-à-dire que au moment où on ouvre la porte pour lui à Navi, on attend de le voir avec le fils. Il dit, c'est à vous ça, j'ai trouvé dans la rue. D'accord? C'est-à-dire que dans toute l'histoire de la Gada, il y a toujours ce motif de la recherche du cinquième. C'est quatre qui sont cinq. Il y a quatre couples, mais il y en a une cinquième. On est sorti d'Égypte, mais on attend de ressortir d'Égypte. Vous avez compris? C'est ça, quoi? Il n'a plus de questions. Il donne des réponses, lui. Veishiv levavot albanim. Il donne des réponses. D'accord? Et les choses ont remarqué qu'il écrit quatre fois le mot Baruch. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shnatan Torah Lamisrael, Baruch Hu. Pourquoi quatre fois Baruch? Keneged Arba Banim. À cause des quatre fils. Et qu'est-ce qu'on dit quand on ouvre la porte à Eliyahu HaNavi? Baruch Haba. D'accord? Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne fête de Pessah. Shalom.